C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, parlons de la firme McKinsey. Thomas Gerbet de Radio-Canada fait une enquête sur la nature du contrat. On ne sait pas tout, évidemment, mais on sait que ça coûtait 35 000 par jour et qu'il y a beaucoup de clauses où McKinsey refuse de dévoiler des conflits d'intérêts potentiels. Donc, est-ce que le gouvernement qui a retenu les services de cette firme pendant la pandémie devrait rendre le contrat public? Nathalie.
Ben, tout d'abord, Paul, bravo à Thomas Gerbet. Une fois de plus, il a fait des révélations concernant cette firme qui suscite des questionnements, des interrogations. Et oui, le gouvernement de François Legault a un devoir de transparence dans ce dossier parce que McKinsey, de toute évidence, ce n'est pas une firme comme une autre parce que des firmes de consultants dans les ministères et organismes du gouvernement, il y en a un puis un autre. Là. Certains ministères s'enfargent dans les consultants tellement il y en a. Ce qui semble différent dans ce cas-ci, c'est qu'on est plus dans la co-gestion que dans la consultation. Et moi, bien honnêtement, comme ex-parlementaire, ça m'achale. Selon les révélations faites par Thomas Gerbet, McKinsey semblait en mener très, très large. Lorsqu'une firme de consultation est capable de convoquer elle-même des hauts fonctionnaires, c'est qu'en quelque part, ils ont le brelon et ça mérite des explications. Ça, c'est le devoir de transparence, l'obligation de transparence, mais aussi aux yeux des contribuables que nous sommes. Tu parlais d'honoraires versés à la raison à hauteur de 35 000 $ par jour. Au total, ce que Thomas Gerbet a révélé, c'est qu'il y aurait eu un premier contrat, honoraires versés pour un plan de déconfinement de 1,7 million de $ et un autre plan pour la relance de l'économie qui s'élève à 4,9 millions de $. Non seulement il y a des questions, des interrogations qui demeurent sans réponse, mais je pense qu'au-delà de l'idée de rendre ce contrat public, c'est-à-dire le contexte du mandat, les avis qui ont été émis, les conseils, etc., pourquoi pas une commission parlementaire, un mandat spécial de la part des parlementaires pour aller jusqu'au fond des choses, parce que j'ai l'impression que McKinsey est devenu un consultant chouchou pour le gouvernement. Puis la question qui se pose, c'est que est-ce qu'ils ont l'intention à nouveau de faire appel à McKinsey? Et si oui, dans quel contexte?
Ben, il n'y a rien qu'un fonctionnaire ne peut pas faire qu'un consultant fait. Un consultant a plus d'informations parce qu'il ne fait que ça. Donc, par exemple, si la base, là, le net plus ultra de ce que font les consultants, c'est deux choses. C'est du balisage, que les Américains appellent du benchmarking. C'est-à-dire que s'ils ont des bureaux à travers le monde, ils sont capables de demander à leurs bureaux à travers le monde, la vaccination, ça se passe comment chez vous? Vous allez gérer ça comment? Ça, c'est la première chose. La deuxième, ou ça peut être pour n'importe quoi, tu sais, service à la clientèle, quel sondage vous utilisez, déploiement des opérations, logistique, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel, qu'est-ce que vous utilisez comme mode d'organisation. Si tu as cette information-là qui vient de plusieurs pays dans le monde, c'est le fun. C'est la première chose qu'ils font bien. Puis, McKinsey sont présents dans plusieurs pays dans le monde, comme Capgemini, Ernst & Young ou autres. Mais la deuxième chose, c'est les systèmes d'information. Quand tu arrives au choix du système d'information, par exemple, on va mettre en place un guichet unique de réservation pour de rendez-vous pour le vaccin. Là, il ne faut pas que tu te trompes, parce que est-ce qu'il est oui ou non connecté avec les données de la RAMQ? Est-ce qu'il permet de faire des rappels? Est-ce qu'il permet de faire des rapports pour savoir t'en es où dans l'évolution? Est-ce qu'il permet d'identifier les clientèles vulnérables? Quel système d'information tu vas choisir? Tu vas te choisir ce qu'on appelle best of breed, c'est-à-dire des systèmes qui sont designés pour faire ça, ou un système plus global qui va venir s'intégrer à ton système. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles les consultants sont bons, ils ne font que ça. C'est comme l'école bleue puis le ciment, hein? À chaque année, il y a quelqu'un qui vient pour te dire, mais là, quand c'est le privé qui fait le ciment, il est mieux fait. Oui, mais parce qu'au col bleu, on lui demande de faire du ciment, de la neige, des structures, de l'eau, de 40 patentes. Si tu dis, fais juste du ciment, il va être aussi bon que le consultant. Mais est-ce qu'on pourrait prendre des fonctionnaires puis leur dire, toi, là, tu vas te spécialiser, là, tu vas faire juste ça. Mais il va être aussi bon que le consultant. Maintenant, sur le contrat lui-même, c'est le même contrat qu'en Ontario. C'est le même contrat qu'en Ontario. C'est les mêmes prix. C'est à peu près le même contrat qu'en France aussi. Sauf que, le chiffre fait sourciller. 35 000 $ par jour. Dans les données de Gerbet, il dit qu'il y a eu jusqu'à 10 personnes qui ont travaillé sur le contrat, mais pas tous les jours. Par jour, dans les échanges de courriel, il voyait 2 personnes par jour. 2 personnes par jour, 35 000 divisé par 2, ça fait combien ça? Ça fait 17 000. C'est beaucoup d'argent.
Nathalie?
Ouais. C'est ce que tu as à dire, mon cher Luc.
Oui, c'est
ça. Je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, moi, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, qui vont continuer d'être écrites sur McKenzie. Tu as reçu Paul un peu plus tôt, Thomas Gerbet. Vous avez parlé ensemble de ce livre publié le 4 octobre dernier par deux journalistes du New York Times. Ça fait un peu plus d'un an que le New York Times est sur le cas de McKenzie parce qu'il y a énormément d'interrogations sur le rôle qu'il joue dans le monde entier parce que ils sont présents partout. Il y a un ancien, d'ailleurs, de la firme qui a été cité anonymement dans le livre des journalistes qui dit, et là, vous me permettrez de le citer, « Pour ceux qui sont convaincus qu'une cabale secrète contrôle le monde, que les suspects usuels sont les Illuminati ou les reptiliens, ils se trompent. Il n'y a ni société secrète façonnant chaque décision majeure ou déterminant le cours de l'histoire humaine. Cela dit, il y a McKenzie. » Et ça démontre à quel point ils sont influents. Et j'apprends en faisant quelques lectures que McKenzie, bon, il y a des allégations, par exemple, de pots de vin chez Boeing. Ils sont tellement partout, là. Ils font une chose et son contraire. Par exemple, ils sont à Davos pour faire la promotion de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pendant ce temps, ils conseillent les plus grandes sociétés au monde qui sont les plus grandes émettrices de CO2. On l'a vu avec Pfizer pendant qu'ils sont consultants pour Pfizer, ben ils sont également consultants pour la Food Drug and Administration aux États-Unis. Alors, il y a toutes sortes de questionnements qui se posent. Je dis pas que McKenzie est une mauvaise firme, ce n'est pas ce que je dis. Mais l'emprise de la firme sur la destinée de certaines politiques publiques dans le monde mérite qu'on s'y attarde. Luc, tu parlais de consultants au gouvernement, dans les ministères, par rapport à l'expertise qui sont détenues par les gouvernements. C'est peut-être ça aussi un problème, c'est que la perte d'expertise fait en sorte qu'il y a de plus en plus de consultants dans les ministères organismes partout dans le monde. Sauf que dans ce cas-ci, moi, ça m'achale énormément, c'est qu'on a la nette impression que c'est McKenzie qui a pris le contrôle de la gestion de la pandémie. Une question qui m'est venue en tête en lisant le texte de Thomas Gerbet, la création de l'agence de santé. Lorsque la sous-ministre Dominique Savoie dit qu'il faut dépolitiser la santé, il faut sortir la politique de la santé, est-ce que c'est une idée de McKenzie qui est celle de créer une agence de santé, une agence qui verrait aux opérations du réseau sur le terrain? Est-ce que si c'est une idée de McKenzie, pourquoi on veut aller dans cette direction? Toutes sortes de questions que moi, je me plairais bien poser dans le cadre d'une commission parlementaire.
Luc? Moi, je pense qu'une bonne part du succès des firmes de consultants, en particulier McKenzie, c'est uniquement le recrutement. C'est-à-dire que ils recrutent du monde.
Sais-tu combien ils reçoivent de CV dans une année?
Non.
Oui.
200 000.
Tu vois? Ouais.
200 000
tabourettes.
OK, puis eux, ils vont recruter dans les grandes écoles, les grandes universités, Harvard, Yale, les meilleurs. C'est 200 000 par année que tu gagnes.
Mais par contre, ils ne disent pas la vraie chose. C'est-à-dire que ce qu'ils doivent dire, là, c'est est-ce que vous aimez dormir? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez un chien? Vous ne pouvez pas travailler chez McKenzie. McKenzie, si tu travailles chez McKenzie ou n'importe quelle autre firme de consultant, ils t'engagent pourquoi? Au début, je l'ai dit, là, benchmarking puis technologie d'information. Mais il y a un troisième aspect qui est corvéable à merci. Corvéable à merci, ça veut dire que toi, tu te mets dans le coin, là, tu vas travailler 12 heures par jour, 6 jours par semaine, jusqu'à la fin du contrat. Merci, bonsoir. Tu ne poses pas de questions sur congé de maladie, on veut pas le savoir. Formation, on veut pas le savoir. Conciliation travail-famille, on veut pas le savoir. Et c'est ce qui fait qu'ils deviennent utiles. C'est pas qu'ils sont plus intelligents que les fonfons, là. Non, ils sont pas plus intelligents que les fonfons. Au contraire, quand un consultant arrive, là, la première chose qu'il fait, c'est aller voir les fonctionnaires pour savoir comment ça marche. Puis de leur demander exactement comment la structure est faite. Bon. Mais après ça, ils ont toute cette information-là. Eux sont tout le temps là, sont tout le temps disponibles. Il va se passer quoi? Ils vont aller dans 12 rencontres de direction. Ils vont être assis dans un coin, ils diront pas un mot. Au bout de la 13e rencontre de direction, ils possèdent beaucoup plus d'informations que la moyenne des ours.
C'est différent avec McKenzie, c'est différent. Parce que McKenzie, ils sont partout dans le monde.
Oui, oui.
Alors, dans le fond, ils peuvent
sais-tu combien sont Capgemini et Ernst & Young? 17 000.
Oui. Non, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est en bout de ligne, là, c'est le client qui décide. Et l'exemple qu'ils donnent dans les, c'est Disney. Disney les embauche.
Oui.
Eux regardent ça. Recommandation. Coupé dans la main-d'œuvre. Coupé dans la formation. Bref, réduisez vos coûts pour faire plus de profit. Ce qui est important, c'est le bénéfice de l'actionnaire. Conséquence, des accidents sur les manèges, des employés blessés, des touristes blessés. Puis, tu comprends? C'est pas de leur faute.
Non, mais c'est clair.
Eux autres, ils leur ont dit,
coupez. Mais Paul, moi, je suis persuadé qu'un bon consultant, la seule chose qu'il fait correctement, c'est de lire l'heure sur la montre de son client. C'est-à-dire que
McKinsey fait beaucoup plus que ça, mon cher. Ouais, c'est
oui,
ça.
Oui, non, mais eux autres qui arrivent là, ils veulent rester là. Tu sais, leur job, c'est quoi? C'est se velcroiser. Puis là, ils vont avoir les faveurs du patron, savoir qu'est-ce que le patron veut, fournir ce que le patron veut. Moi, je trouve pas si brillant que ça. 17 000, j'ai dit, c'était pour le Canada. Hein, 170 000, Capgemini et Ernst & Young. 170 000 personnes qui font ça à temps plein.
On s'arrête là-dessus. Au retour, est-ce qu'on doit encadrer, voire même interdire la pub qui fait la promotion des VUS à essence?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, est-ce qu'on doit encadrer, voire même interdire les pubs faisant la promotion des VUS à essence? C'est une proposition, entre autres, de Équiterre. Luc?
Bon, écoute, les pubs, si on les encadre, puis on les paramètre, ça va avoir un petit impact sur des décisions individuelles. Il y a quelqu'un qui va dire, moi, je m'achète pas un VUS, je m'achète pas un camion léger, je vais m'acheter tel type de voiture, ou peut-être même une voiture hybride ou une voiture électrique. Ça va avoir un petit effet. Mais le gros effet, les choix individuels n'ont pas, en bout de ligne, pas tant d'importance que ça. Ce sont les choix collectifs qui font qu'on finit par changer les gaz à effet de serre. Qu'il y a 15 % du monde sur ta rue qui a changé de char, ça changera pas grand-chose. À la hauteur du Québec, là, il y a une explosion du nombre de VUS. Maintenant, c'est 80 % des voitures vendues sont des VUS. Seulement 20 % sont des voitures. Puis, l'augmentation des gaz à effet de serre qui est reliée à ça, c'est à peu près 55 % des gaz à effet de serre, de l'augmentation des gaz à effet de serre depuis 2015 est liée au choix de voiture. 55 % des gaz à effet de serre, je le répète, là, plus de la moitié est liée à notre choix de voiture. Ben, pourquoi on continue de prendre des voitures comme ça? Parce que c'est ce qui est sur le marché. C'est ça qu'on nous offre. On nous offre de moins en moins de voitures. Il y a eu un enrichissement de la population. La population va avoir un plus gros véhicule. Les firmes sont super bonnes pour leur vendre ces véhicules-là. Puis, un véhicule, c'est un outil de représentation, là. Donc, ça veut dire, moi, je vais pas me mettre à 5 dans un petit char avec les valises sur le toit. Je ferai pas ça. Je vais m'acheter un plus gros char.
mais oui, mais. Tu fais ça sur ton vélo, toi.
Mais non, mais c'est ça. Mais c'est, on est là. La personne gagne 150 000 par année, une grosse famille. Tu le mettras pas tout pogné dans une petite Corolla. Ils vont dire, non, oui, José, là, moi, j'ai le confort. Je suis arrivé. Je suis rendu là. Je veux ça. Je vais le faire. C'est collectivement qu'il faut prendre la décision. Collectivement, tu dis, regarde, voici les impacts. Voici ce que ça coûte à la société. Voici ce qu'on va te facturer. Et là, les choix vont changer.
Luc. On aime ça au Québec, les VUS. Puis combien de consommateurs, d'auditeurs nous disent, ben moi, je voudrais bien avoir un autre véhicule que mon VUS, mais le problème, c'est que le marché ne m'offre pas d'alternative pour ce qui est des véhicules, soit électriques ou hybrides rechargeables. Il y en a pour qui le gros VUS, là, qui est de moins en moins polluant, faut-il le dire, c'est ce que ça prend pour la famille, les trois enfants qui sont au sport, au soccer, au hockey. Enfin, t'as déjà entendu ce genre d'argument, Luc. On peut pas reprocher à Équiterre de ne pas être constant. Parce que depuis quelques années, ils ont embrassé ce combat de pousser les gouvernements à interdire ou à encadrer les publicités. Ils donnent un certain nombre d'exemples dans le monde. En France, par exemple, c'est Radio-Canada qui nous apprenait ça là, dernièrement. Les constructeurs sont obligés de mentionner la consommation de carburant des véhicules sur chaque annonce. Et chaque annonce est également accompagnée d'une alternative pour l'automobiliste ou le consommateur qui achète la voiture, par exemple. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pensez à covoiturer. Au quotidien, prenez les transports en commun. Amsterdam a fait la même chose. Moi, ce que je dis, c'est que on peut pas être contre ça, mais je ne crois pas que ça va arriver. Pourquoi? Parce que le lobby de la voiture, le lobby de l'automobile au Canada, c'est un lobby extrêmement puissant, et en Amérique du Nord en particulier. Juste au Canada, c'est une industrie qui... Le Canada assemble 1,4 million de véhicules à chaque année. Ça crée des centaines de milliers d'emplois. Contribution nette au PIB, plus de 12 milliards par année au PIB du pays. Donc, l'industrie automobile a un impact positif sur la capacité qu'on a à créer de la richesse à chaque année au Canada. Maintenant, puis là, je parlais de puissants lobbies au Canada, mais également aux États-Unis. Maintenant, la grande roue des plans de la transition écologique est en marche. Joe Biden a annoncé au mois d'août dernier, août 2021, son plan pour verdir l'économie américaine. Et qui était avec lui sur le parterre, en fait, sur la cour arrière de la Maison-Blanche lorsqu'il a fait son annonce? Ben, les grands patrons des constructeurs, que sont les GM de ce monde, les Toyota, ils étaient tous là en disant, ben, nous aussi, on veut participer à cet effort qui est annoncé par l'administration en place. Alors, ils ont tous le même intérêt, les constructeurs, c'est-à-dire de vendre des véhicules. Mais moi, je pense, Luc, que il est trop tôt pour interdire les publicités parce que le consommateur n'a pas suffisamment de plan B. Il n'y a pas suffisamment d'alternatives.
Ouais, c'est vrai, mais l'affaire, il faut au moins qu'il le sache. Là, parce qu'il y a une chose, tu sais. Moi, à chaque fois que j'ai dit ça, puis c'est des gens qui nous écoutent, là, sont dans leur voiture souvent, tu sais, puis bon, mais à 80% des cas, ils ont un SUV, tu sais, 80%, fait que là, on s'adresse à eux, là. Donc,
oui.
Eux, ils répondent tout le temps, ben non, mais ça consomme, c'est moins en moins pire, là, la consommation des SUV, un instant. C'est vrai que c'est de moins en moins pire, parce que, mais comme le véhicule a grossi, l'économie potentielle qu'on aurait pu aller chercher, on n'est pas allé la chercher. À cause notamment de la résistance au vent, même si le moteur est plus économique. Regarde, en 2018, en moyenne, les SUV consomment 31% plus que les voitures. Fait que là, ça, c'est clair. C'est une affaire réglée, c'est scientifique, c'est mesuré. Là. C'est 31% plus que les voitures. Maintenant, pourquoi on va pas vers les voitures? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais moi, j'en évoquerai une autre. Vous vous faites fourrer. Là, je m'adresse aux automobilistes. Vous vous faites fourrer. Vous faites fourrer sur le prix de l'essence. Vous faites fourrer sur le prix de l'assurance. Vous faites fourrer sur le prix du véhicule.
Mais on fait quoi, Luc?
Non. Ce que je te dis, là, regarde, tu l'as dit toi-même. C'est les constructeurs qui décident comment vous allez vous faire fourrer. Si on avait une Golf, s'il y avait une Golf, mettons, la Golf, là, tu sais, la GTI, là, 140 chevaux, là, tu sais, qui marche très bien. Ou la Corolla, ils en ont vendu 51 millions d'exemplaires, la Corolla, à travers le temps. Mais mettons la Golf, OK? Je prends cet exemple-là. On dit, OK, il y a une compagnie, là, on va dire, compte tenu des gaz à effet de serre, puis type ça, on prend la Golf, on l'améliore, puis on va la produire à 25 millions par année dans le monde. Elle coûterait la moitié du prix. T'aurais pas le choix. Tu dis, oui, mais moi, la Golf, je sais pas. Oui, mais elle coûte la moitié du prix.
Non, mais Luc, oui, mais en même temps, le Québec, c'est pas la France, c'est pas les Pays-Bas. Le Québec, c'est grand. Te promener avec ta Golf après une tempête de neige en Abitibi-Témiscamingue, je suis pas sûr que ça ferait nécessairement le travail. Je dis ça, je connais pas ce dont est capable une Golf. Là, je suis convaincu que c'est une bonne voiture. Mais au-delà de ça, Luc, il y a le Québec, là, le Québec, arrêtons de nous comparer à la Suède ou je ne sais trop. Tu sais, on a une culture de l'automobile qui est différente de certains pays.
Mais Nathalie, mon point, là, c'est que c'est pas tellement nous notre culture, c'est ce que nous imposent les fournisseurs. S'il y avait une voiture, s'il y avait une voiture 4 places, la moitié du prix qu'une voiture sur le marché, les gens l'achèteraient. Ouais.
Tu vois, je voyais une publicité en fin de semaine, le Mercedes qui annonce un véhicule 100% électrique, c'était un beau VUS, Luc,
Ils sont morts de rire.
Électrique.
Mais Nathalie, ils sont morts de rire. Ils vont, tu sais, la voiture électrique te permet une chose. As-tu déjà ouvert le hood?
J'ai même
d'une
déjà
voiture
conduit
oui.
une voiture
Alors,
électrique.
Tu sais, en termes de science, c'est extraordinaire. Il y a pas d'huile, il y a pas d'eau. Le freinage, c'est un freinage qui récupère de l'énergie. En théorie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de matière dans ta voiture. Ok, elle devrait coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Tu préfères une voiture électrique là? Tu prends une ancienne Honda Civic, tu mets 4 chaises de pique-nique taquées dans le fond avec un moteur, une batterie, 4 roues. Ça marche. Les voitures électriques, c'est ça. Mais les constructeurs ont eu la bonne idée de dire, attends. On va offrir le Net Plus Ultra Mercedes, que chauffage des bancs, si ça, puis on va le vendre le même prix que l'ancien. Vous vous faites fourrer.
Merci à tous les deux. Juste rappeler aussi que le consommateur est bien influencé par, exemple, le prix de l'essence. Quand il y a eu le choc pétrolier, là tu avais arrivé les petites autos. Puis il y avait des familles nombreuses pareilles. Là. C'était à une époque où...
Avec deux enfants, la face collée contre la vitre.
Un peu. Ça fumait à l'intérieur, mais ça, c'est un autre débat. Merci à tous les deux.
C'est 23.